France Inter.
Eh bien, Blockbuster, merci. Merci, merci, merci et encore merci pour le Roi Lion. Moi, je suis né en décembre 92, donc quand c'est sorti au cinéma, j'étais trop jeune. Et j'ai eu la VHS dès que j'ai été en âge d'avoir la VHS, je me souviens plus très bien, mais très très jeune aussi. Je l'ai tellement regardée, je la conserve encore, mais elle ne fonctionne plus tellement je l'ai regardée. Et c'était très très émouvant puisque j'ai 30 ans aujourd'hui, enfin 31 du coup, deux enfants et j'ai mon plus grand qui a 2 ans et quand il me demande musique, je lui mets l'histoire de la vie et je ne peux m'empêcher à chaque fois d'avoir une petite envie, les larmes qui montent puisque c'est toute mon enfance et je ferai en sorte que ce soit aussi toute l'enfance de mes enfants. Merci encore pour ce très beau sujet et longue vie à Blockbuster. Des bisous.
Salut Fred, c'est Gary, Paris 15e. Bon, tu sais, j'adore Blockbuster depuis des années, mais là, shame on me. J'ai attendu 30 ans, Fred, pour apprendre que c'était Jean Reno qui doublait Mufasa. Je sais pas, il aurait pu nous laisser un indice. Je sais pas, moi, il me regarde la gueule enflammée et il me dit, Nala, on doit la tourner. Il aurait pu laisser un indice. Je t'assure, j'ai tenu un vidéoclub pendant 3 ans. J'en ai vendu du Roi Lion en paquet. Et là, Fred, une fois de plus, eh ben tu m'as bluffé. Longue vie à Blockbuster. Bisous les amis.
Salut l'équipe de Blockbuster, c'est Nathan. Depuis un peu plus d'1 an maintenant, à chaque fois que je vous écoute, vous êtes un peu ma Madeleine de Proust. Je vous explique. Quand je vous écoutais durant une mission scientifique aux îles Kerguelen, dans les terres australes et antarctiques françaises, entourées de manchots et d'éléphants de mer et à plus de 3000 km de toute ville, pendant presque une année. Merci pour vos émissions et pour les réminiscences qu'elles me provoquent à chaque nouvelle écoute. Salut.
To be or not to be, not to be.
Je vais vous faire un aveu, je hais les biopics, mais d'une force. Pour moi, les biopics sont au cinéma ce que la trottinette électrique est au sport. Le point final de la paresse, le mont Everest des feignants, il n'y a rien qui va dans les biopics. C'est comme apprendre l'histoire de France en lisant Astérix. Ce qui m'énerve le plus dans les biopics, c'est quand on fait la relecture de la vie d'une star à l'aune de ce que l'on sait de sa mort. Par exemple, James Dean est mort dans un accident de voiture, et on va le montrer en train de passer son permis de conduire avec son moniteur qui va le mettre en garde. Attention, monsieur Dean, vous avez tendance à pas respecter les limitations du test, ça risque de vous jouer des tours. Kurt Cobain se suicide avec un fusil, on va leur montrer une scène où un vieil oncle lui apprend à chasser le chevreuil. Claude François, allez zou, on montre qu'enfant il a séché un cours de techno le jour où on apprenait comment changer une ampoule. À chaque fois que je vois ça dans la salle de cinéma, j'ai envie de hurler au réalisateur « Mais tu te crois malin ?» Et le pompon des biopics, c'est celui que j'ai vu pour préparer cette émission. « Back to Black », le biopic d'Amy Winehouse. Non seulement, grâce à ce chef-d'œuvre, j'ai découvert qu'être toxicomane, c'est marcher pieds nus dans l'ombre, la bouche ouverte avec du mascara qui coule, mais en plus de ça, ce film réussit l'exploit de faire du sac à purin qui lui servait de mari, c'est-à-dire un dealer, toxicomane, violent, tolard, qui allait jusqu'à vendre des photos d'elle défoncées par la drogue et l'alcool aux tabloïdes. Eh bien, le film en fait une sorte de beau gosse quasi victime d'Amy Winehouse, pas loin d'être la voix de la raison. Il lui dit comme ça à un moment donné dans le film, « Tu sais, Amy, mon psy m'a dit qu'on est dans une relation toxique. On devrait peut-être s'arrêter là. » Mais va crever ! Franchement, il y a des films qui veulent rendre hommage et d'autres à qui on devrait demander des dommages et intérêts pour le temps qui vous font perdre.
France Inter. Blockbuster.
Juste ici, ça va.
Frédéric Siglist.
Stress the man when there's so many real things at hand. We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you and perspective pushes true, I'll be some next man's other woman. So I can't upgrade myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks. The sun goes down, he takes the day, but I'm-
Il y a peu, l'application Apple Music s'est livrée au classement des 100 albums les plus marquants de l'histoire de la musique. Alors s'il est peu probable que l'on soit d'accord sur la totalité du palmarès, on peut au moins s'entendre sur la qualité phénoménale de l'album Back to Black d'Amy Winehouse, sorti en 2006. Un album qui s'est écoulé à plus de 20 millions d'exemplaires. Témoignage parfait du talent exceptionnel d'une artiste charismatique, une étoile filante de la musique qui a rejoint le 23 juillet 2011 le tristement célèbre Club des 27, ces artistes morts à l'âge de 27 ans tels que Jimi Hendrix, Jim Morrison ou Kurt Cobain. Mais derrière un funeste destin et une vie sous addiction scrutée par les tabloïds de tout pays, se trouve aussi une musicienne de génie que je vous propose de mieux connaître en compagnie de Sofian Fanen. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, cofondateur du média Les Jours, et vous êtes spécialisé dans la musique et l'industrie musicale. Vous êtes l'auteur de l'ouvrage Amis pour la vie, publié en avril 2024 aux éditions Des Jours.
C'est ça.
Avec nous également Julia Manas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de droit dans l'édition, vous êtes chanteuse de jazz amatrice et Amy Winehouse est une grande inspiration pour vous.
Exactement.
Avec nous de retour également Elsa Gambin, bonjour.
Bonjour Fred.
Vous êtes journaliste indépendante, vous avez coécrit l'excellente bande dessinée Amy Winehouse en BD, publiée également en avril 2024 aux éditions Petit à Petit.
Depuis toujours, je parle fort, au point qu'on me demande de me taire. La seule raison pour laquelle j'ai dû parler si fort, c'est parce qu'il faut crier pour se faire entendre dans ma famille. Du côté de ma mère, tout va bien, en dehors d'une grand-mère abominable, mais dans la famille de mon père, c'est un vrai festival. Tout le monde chante et danse comme des fous. On m'a dit que j'étais dotée d'une jolie voix, et j'imagine que la faute en revient à mon père. Même si, contrairement à mon père, à son milieu et à ses ancêtres, j'ai envie de faire quelque chose de ces talents que j'ai la chance d'avoir. Mon père est ravi de chanter à tue-tête dans son bureau, il vend des fenêtres. Ma mère, elle, est pharmacienne. Elle est discrète, réservée, elle s'emporte parfois, et c'est elle qui a le plus contribué à mon apparence. Je dirais que ma vie et mes bulletins scolaires sont remplis de « peut mieux faire » et de « ne se donne pas à fond ». C'est parce que c'est horrible d'aller chaque jour dans l'école que je fréquente actuellement. J'ai envie d'aller quelque part où on me poussera dans mes derniers retranchements, voire au-delà, où je chanterai en cours sans qu'on me dise de me taire. Mais avant tout, je rêve d'être très célèbre, de faire de la scène. C'est mon ambition depuis ma tendre enfance. Je veux que les gens entendent ma voix et oublient leurs problèmes le temps de quelques minutes. Je veux qu'on se souvienne de moi comme d'une actrice, d'une chanteuse, de concerts à guichets fermés et de salles combles dans le West End et à Broadway. Qu'on se souvienne de moi pour ce que je suis.
On vient d'entendre une lettre écrite par Amy Winehouse elle-même, que l'on retrouve notamment dans Amis pour la vie, l'ouvrage de Sofian Fanen. Justement, Amy Winehouse a 12 ans quand elle écrit
cette lettre. 12 ans, oui.
12 ans.
C'est tôt pour une lettre comme ça.
C'est tôt, c'est extrêmement tôt. Donc on a quand même affaire à un génie précoce, là.
En tout cas, quelqu'un qui a fortement conscience de qui elle est et de qui elle... Alors peut-être pas qui elle veut devenir, mais ce qu'elle veut devenir. C'est-à-dire que la chanson, la musique, la scène, être devant les gens, faire le zozo un peu aussi, c'est quelque chose qui lui parle. Et elle n'est pas encore rentrée, c'est une lettre qu'elle écrit en cachette. Elle découvre, donc elle a 12 ans, elle va déjà dans une école, je dirais, une sorte de club artistique de quartier, elle est déjà engagée là-dedans, sa grand-mère lui a dit, mais il faut canaliser un peu ton énergie, va faire le zozo sur la scène dans le quartier. Et elle découvre une annonce dans un journal pour une école, la Sylvia Young Theatre Company, qui est une école qui forme aussi bien côté théâtre que côté musique, art, voilà. Et elle candidate, dans le dos de ses parents, sans le dire à personne, elle écrit cette lettre et elle l'envoie, et elle va être reçue avec cette lettre, avec une bourse aussi. Et donc c'est quand même une lettre qui est extrêmement, c'est vrai qu'on la passe à chaque fois, parce que elle est, en fait, elle concentre tout ce qu'est Amy Winehouse. Et le fait de se dire qu'elle a que 12 ans, qu'en fait elle a encore rien écrit, elle sait pas qu'elle a une carrière de chanteuse devant elle, ni rien, elle a juste envie, et elle a compris qu'elle avait ça en elle, en fait, et que c'était d'ailleurs la seule chose qui l'intéressait dans la vie.
Est-ce qu'elle... assez paradoxal, c'est que plus tard, elle dira, lors de nombreuses interviews, « Oh, j'ai jamais voulu devenir chanteuse, j'ai fait ça parce que c'était ce que je savais faire. » Mais quand on écrit cette lettre-là à 12 ans,
ça veut quand même dire qu'on a une volonté chevillée au corps et qui s'est emparée de vous très tôt.
Elle a compris qu'elle a la musique dans la peau. Elle a compris qu'elle est artiste. Ou elle met pas forcément ses mots là-dessus, mais elle a compris qu'elle a cette musique dans la peau. Par contre, c'est quelqu'un qui plus tard, quand elle dit qu'elle voulait pas être chanteuse, elle a énormément souffert de la célébrité. Et en fait, Amy Winehouse, c'est quelqu'un qui voulait être autrice, compositrice, chanteuse, parce qu'elle a aussi assez rapidement compris qu'elle avait une voix, mais en fait la célébrité ne l'intéressait pas du tout. Et tout ce qui allait avec les ventes de disques, etc., etc., c'était quelque chose qui l'intéressait pas du tout. D'ailleurs, elle a absolument pas géré sa carrière. C'est quelqu'un qui était heureuse dans sa vie avec ses proches et en studio. Et alors le reste, vraiment, c'était un poids mental pour elle qui était, d'ailleurs, qu'elle évacuait beaucoup. Donc en fait, elle cherchait pas du tout la célébrité. C'est pas du tout quelqu'un qui s'intéressait à ça. Et c'est marrant parce que sa lettre, elle dit, elle dit plus, je veux que les gens emmènent quelque chose de moi chez eux, en gros. Je veux être importante dans la vie des gens, mais pour les émotions que je passe, pas pour, je veux pas être connue parce que je suis connue.
Elsa Gambin, dans quel genre de milieu social a grandi Amy Winehouse? On vient d'apprendre qu'elle a écrit cette lettre dans le dos de ses parents, mais qui étaient ses parents, justement?
Amy, elle naît dans un quartier très modeste de Londres, dans une famille juive très unie. Voilà, où tout le monde s'aime très fort et partage l'amour de la musique. Elle a un père très très mélomane, mais sa mère aussi, qui va être une femme plus discrète et qui aura un gros souci de santé, d'ailleurs une sclérose en plaques, et elle va se mettre assez rapidement en retrait d'ailleurs de la carrière de sa fille. Mais voilà, elle naît dans cette famille juive très unie, où le père est un fan mais inconditionnel de Frank Sinatra. Il connaît toutes ses chansons par cœur et il passe son temps à chanter du matin au soir. Et Amy finit en grandissant ses chansons, ils reprennent les chansons à deux voix, etc. Donc elle naît dans cette atmosphère de musique très aimante.
Oui, et sa grand-mère aussi a également un passé qui la lie à l'histoire du jazz américain.
Oui, oui, complètement. Elle a fréquenté un petit peu Ronnie Scott, qui ouvrira ensuite un club de jazz éponyme à Londres d'ailleurs, et elle fréquente comme ça les clubs de jazz durant la Seconde Guerre mondiale dans les caves un peu enfumées. Donc oui, elle a tout respire la musique chez les Winehouse, on va dire.
Et quelle musique écoutait-elle? Parce que effectivement, on vient de parler de son amour du jazz, mais il y a quelque chose chez Amy Winehouse qui est éminemment moderne et également. C'est ce qui fait qu'elle a plu aussi à différents types de publics. C'est qu'il y a quelque chose de très très contemporain, très très moderne. Il n'y a pas que jazz dans les influences d'Amy Winehouse.
Non, pas du tout. Elle va évoluer là-dedans, disons petite, et après, elle va se faire sa propre culture musicale, et elle va notamment adorer le hip-hop. Sophia me reprendra si je me trompe, mais elle va adorer le hip-hop, notamment des chanteuses comme Lisa Left Lopez, vraiment des chanteuses avec un fort caractère. Elle va beaucoup écouter TLC, etc. Et donc, elle va vraiment piocher, je dirais, dans ces deux styles musicaux très forts pour créer son propre style à elle.
Julia Manas, comment avez-vous découvert Amy Winehouse et qu'est-ce qui vous a séduit chez elle?
Alors, je l'ai découverte autour de mes 18 ans. Je dirais, donc moi je fais un peu partie de cette génération qui regardait encore MTV à la télé. Donc pour moi, c'était à travers la vidéo de Rehab, qui était pour moi un foudroiement. On voit cette femme avec ses chevelures brunes, bouclées, magnifiques, entourée de musiciens qui jouent chacun dans leur coin. On dirait un peu un asile de fous. C'est une pièce un peu délabrée comme ça. Et je me suis dit, waouh, quelle puissance. Et surtout, j'ai aimé le fait qu'elle ne souriait pas. À l'époque, il y a tous ces vidéos très léchées. On est dans les années 2000. On a toutes ces pop stars
naissantes,
Britney Spears, etc. Et elle est là, elle nous regarde tout droit, elle dit no, 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 mais sans cette envie de plaire, de complaire. Donc c'est comme ça que je l'ai découverte.
Et Sofian, ce look qui l'a fait connaître, notamment cette ruche capillaire qu'elle a sur la tête, ce maquillage, ce style vestimentaire qui vient des années 50, c'est le legs de sa grand-mère vraisemblablement.
Oui, en bonne partie. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui apparaît pour le deuxième album. En fait, Amy Winehouse sort un premier album qui s'appelle Frank, en hommage à Frank Sinatra pour son père, etc. Et à l'époque, elle a un look de chanteuse de jazz en legging rose, pas spécialement apprêtée. Elle joue encore de la guitare sur scène. C'est-à-dire qu'elle n'a pas forcément besoin d'avoir un habit scénique parce qu'elle a sa guitare qui prend un peu toute la place, une grosse guitare. Elle se coiffe n'importe comment. Enfin, c'est pas très important. Et quand elle travaille sur Back to Black, elle rencontre une jeune styliste qui s'appelle Naomi Perry et qui va avec elle. C'est une jeune styliste, hein, vraiment, elle a quasiment rien fait, mais ça devient une amie. Elle travaille comme ça et elle s'interroge sur une façon de mettre en forme la musique qu'Amy Winehouse va faire dans son deuxième album, qui est beaucoup plus orienté vers la soul des années 50-60 et notamment les girls group, tous ces groupes de filles, les Ronettes, les Shangri-Las, tous les groupes qui tournait autour de Phil Spector dans les années 50-60. Et en fait, elle fait un mélange de ces groupes de filles qui étaient à l'époque très habillées. C'était une sorte de look de secrétaire, mais avec une sorte de coupe de cheveux qui montait très haut parce que c'était à la mode, et du look de sa grand-mère. En fait, il y a des photos de sa grand-mère dans les années 50 avec le même trait d'eyeliner qui remonte en virgule, la même choucroute parce que c'était aussi la mode. Et Amy Winehouse et Naomi Perry vont en faire une sorte de version année 2000 en reprenant aussi des choses des années 90, du hip-hop, de Lauryn Hill. Amy Winehouse était fan transi de Lauryn Hill, donc elle va reprendre les grosses boucles d'oreilles créoles. Ils vont faire une sorte de version un peu Miami de oui. Ce look.
Et d'ailleurs, il y a 50. Le même amour des sonorités roots, reggae.
Lauryn Hill, en fait, c'est une grille de lecture très importante dans toute la carrière, la carrière beaucoup trop courte d'Amy Winehouse, parce qu'il y a ce côté, il y a de la soul, il y a du reggae, il y a beaucoup de musique des Caraïbes globalement, c'est très rentre dedans tout en étant assez cool, et ça c'est très Lauryn Hill.
Julia Manas, cette filiation entre Amy Winehouse et Lauryn Hill, vous en étiez déjà consciente, vous l'aviez perçue?
Oui, c'est vrai que moi j'ai eu la chance de voir Amy Winehouse en concert. À l'époque, j'avais que 19 ans et c'est comme si j'avais pas tout à fait compris jusqu'au bout ce que j'étais en train d'écouter et de voir. C'est-à-dire que c'est une chanteuse jazz qui a des capacités, une agilité assez incroyable. Et donc, ça, on l'entend beaucoup, surtout dans le premier album, Frank. C'est plutôt Back to Black qui m'a plus parlé, puisque moi j'ai été biberonnée plus à la musique années 50-60, donc de la psychédélie à la Motown, soul et tout ça. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'en effet, il y a un syncrétisme assez formidable, assez dingue chez Amy, entre des univers très différents, et on dirait quelqu'un qui est sorti d'une autre époque, et en même temps qui est très bien, qui s'adapte très bien à notre époque actuelle.
Et une des inspirations, c'est évidemment le groupe des années 60, les Shangri-Las, qu'on écoute tout de suite. I'm gonna hide, if she don't leave me alone. I'm gonna run away. Don't, cause you can. Listen, does this sound familiar? You wake up every morning, go to school every day, spend your nights on the corner, just passing time away. Your life is so lonely, like a child without a toy. Then a miracle, a boy. And that's called glad. She's a good mom, and she loves me with all her heart. But she said I was too young to be in love. I can never go home anymore, des Shangri-Las, une chanson de 1966 à écouter quand vous êtes beaucoup trop gay. et que vous avez besoin de vous calmer un petit peu. Voilà, un coup de Shangri-La, c'est tout d'un coup, il y a un neurospleen qui va s'emparer de vous. Alors j'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière avant Back to Black, avant Frank, et qu'on on voit avec Elsa Gambin cette famille, parce que là on a parlé du père, de la mère, mais il y a un trauma matriciel, enfin pour le coup un trauma paternel, parce que Mitch, le papa d'Amy Winehouse, a longuement trompé la maman de Amy Winehouse, et ça lui a laissé une trace dont elle a eu du mal à se remettre.
Oui, oui, pendant des années, effectivement. Alors c'était su, hein, il y avait en gros l'autre femme de papa, quoi, Jane. Et au bout d'un moment, Mitch choisit de partir et donc d'aller vivre avec cette autre femme. Amy, elle a à ce moment-là 9 ans. Et vraiment, vous l'avez dit, une rupture dans sa vie, une première rupture dans sa vie qui va presque conditionner le reste de sa vie. C'est-à-dire qu'elle va vraiment s'effondrer à ce moment-là, même si l'attention va être portée vers son grand frère qui va faire une dépression. Et on va se dire, oh là là, mais la cadette, c'est bon, elle est passée entre les gouttes. Et en fait, pas du tout, puisqu'elle va commencer à se scarifier. Hein, c'est se couper volontairement à l'âge de 9 ans. Donc, ce qui est quand même pas rien. Et ce qui vient indiquer une santé mentale déjà fragile.
Oui, et elle va aussi rapidement montrer des signes de boulimie.
Oui, dès l'adolescence, dès 14-15 ans. Et c'est des signes, finalement, son père, je dis beaucoup son père, je suis désolée parce que vraiment la mère était un peu plus effacée après dans sa vie.
Après, c'est pas parce qu'elle s'en est pas intéressée, hein, je le dis pour les auditeurs et
tout
auditrices, c'est que elle-même ayant eu à combattre la maladie, oui, avec une sclérose en plaques, c'est d'ailleurs, pour reparler de ce mauvais film, ce qu'il ne montre absolument pas dedans, c'est que cette mère ne s'est pas désintéressée de sa fille, c'est juste qu'elle est en train de se battre pour sa vie.
Ouais, jamais, non, Janice était présente, c'était une bonne mère avec tout ce que ça peut vouloir dire, avec tout ce que le terme peut vouloir dire. Mais en tout cas, effectivement, la boulimie va faire entrer dans sa vie à l'adolescence, et donc de manière cachée, j'ai envie de dire, puisque c'est très difficile de diagnostiquer ça, et notamment, on parle d'il y a 25 ans, et la santé mentale des ados, c'était pas encore génial, on va pas se mentir. On commence tout juste à parler de dépression adolescente, en tout cas chez nous. Mais du coup, il y avait une forme de dépression, déjà, latente, c'est évident. Mais personne, à ce moment-là, n'a pris la mesure, on va dire. Donc Mitch n'est pas un mauvais père non plus, comme il a été décrit moult fois. C'est en tout cas un père qui n'a pas pris la mesure de la santé mentale extrêmement fragile de sa fille.
D'autant que, comme l'a très justement dit Sofian, elle donnait le change en faisant le show à la maison, en étant cette boule d'énergie à l'école, indisciplinée, qui avait envie d'être dans la lumière. Donc il y avait toujours un petit peu ce côté ambivalent entre la personne qui est enfermée dans sa chambre et qui commence à développer des névroses, et puis cette personne qui apparaît à l'extérieur comme une sorte de phare de bonne humeur.
Oui, elle a pris des antidépresseurs assez tôt aussi, et finalement elle bottait un peu en touche quand on lui posait des questions sur ce qu'elle prenait, enfin auprès de sa meilleure amie Juliette, tout ça, Juliette Ajby. Elle bottait en touche beaucoup, et vous l'avez dit, et je tiens vraiment à le préciser, en dehors de ces épisodes dépressifs ou de mal-être profond, c'était effectivement une jeune femme extrêmement solaire. Lumineuse, gaie, elle faisait à manger pour tout le monde, elle adorait faire à manger pour les gens, elle était très drôle, elle faisait des blagues, enfin, elle était vraiment solaire à côté de ça. Je tiens vraiment à le préciser parce que j'ai du mal avec le fait qu'on représente toujours Amy comme quelqu'un de très sombre, ce qu'elle était, mais quand elle allait bien, elle était incroyable, et c'est ce que tout le monde dit d'ailleurs, tout le monde dit, mais Amy en fait, mais tout le monde l'aimait.
Et d'ailleurs, vous avez cité le nom de sa meilleure amie, qui a été aussi sa colocataire pendant un certain temps, qui elle-même, si je ne m'abuse, est musicienne également, a eu une carrière de chanteuse, et avec lequel elle avait formé un premier duo de rap, Sofian. Et c'est ça, inspiré de Salt-N-Pepa.
Salt-N-Pepa s'appelait Sweet and Sour. Et évidemment, le côté amer, c'était Amy Winehouse, parce qu'elle a toujours ce côté un petit peu caustique. Et oui, ça a duré. Ça a duré. C'est un truc d'adolescente. Mais ce qui est intéressant, c'est que elles ont eu accès à un studio, elles ont enregistré un peu de musique. Enfin, c'est des premiers pas d'Amy Winehouse dans un studio devant un micro.
Oui, parce que le papa de Juliette travaillait dans la musique.
Exactement.
Également.
Voilà. Donc elles ont eu accès comme ça. Et donc il y a des traces qui restent comme ça de cet enregistrement. Et Juliette Ashby va vraiment rester pendant toute la vie d'Amy Winehouse quelqu'un de qui sera proche, y compris géographiquement, y compris c'est elle qu'on va appeler quand Amy Winehouse va faire des malaises, va être retrouvée inanimée chez elle, etc. Plusieurs fois, c'est elle qu'on appelle en fait parce que elle est pas très loin, c'est une des personnes fiables de son entourage pendant toute sa vie.
Et d'ailleurs, c'est le même père de Juliette qui va la faire travailler en tant que journaliste musical sur une période très très courte.
Il a une petite agence d'information sur la culture, et donc Amy Winehouse écrit des petites chroniques de concerts, d'albums, de théâtre, etc. En fait, elle aime bien écrire. C'est quelqu'un qui écrit beaucoup et toutes les formes d'écriture l'intéressent. D'ailleurs, elle écrit dès son enfance. Elle fait des listes et elle écrit des listes assez incroyables de ce qu'elle aime bien, ce qu'elle aime pas, ce qu'elle veut faire
comment elle se voit
et elle est assez précise. D'ailleurs, pareil, elle est assez limpide, c'est-à-dire qu'elle se voit en même temps comme quelqu'un de super drôle, de très dynamique, de rigolote, etc., mais aussi de un peu pénible, un peu triste, etc. Elle a comme ça cette ambivalence. Elle voit assez clair en elle, hein, Amy Winehouse, pendant toute sa vie. D'ailleurs, sa musique elle-même, ses chansons elles-mêmes, ne sont qu'une déclinaison de ce format de journal intime, parce que d'ailleurs on l'a peut-être pas assez compris de son vivant, et notamment nous en France n'écoutant pas bien les paroles anglaises, les chansons d'Amy Winehouse,
il y a aussi à voir beaucoup notre rapport à la langue anglaise,
exactement, mais les chansons d'Amy Winehouse sont absolument biographiques, à quelques micro détails peut-être sur Frank, mais vraiment c'est extrêmement biographique, et donc c'est la suite de ce sort de journal intime. C'est un journal intime en musique.
Jean Manès, ce qui m'a frappé en travaillant sur la biographie d'Amy Winehouse, c'est de voir cette jeune fille qui très très tôt est capable d'imposer sa volonté, de s'émanciper de tellement de choses. C'est ça, son rapport aux hommes. On dit souvent qu'il y a aux États-Unis, on parle de daddy issues. Et alors là, ça se pose là, c'est-à-dire qu'on a quand même un parangon d'indépendance et de charisme fait femme, qui a un rapport aux hommes qui m'a interpellé, parce qu'elle n'avait pas un discours particulièrement féministe.
Je pense qu'on peut, on peut voir là aussi une duplicité, c'est-à-dire que d'une part, c'était quelqu'un qui cherchait une forme de protection. Peut-être son père, c'était quelqu'un de dément, mais un peu souple, donc il lui manquait un côté un peu plus autoritaire. On le voit bien, par exemple, dans une chanson comme Stronger Than Me, où en gros, elle critique son homme de ne pas être assez viril, oui. De ne pas...
D'ailleurs, j'ai eu un peu pitié de son copain de l'époque, quand il a dû entendre la chanson. Il y a des ruptures qui sont plus discrètes que celle-ci.
Elle l'appelle Frozen Turkey, donc vraiment, oui, un dinde
froide.
Mais de l'autre côté, elle a quand même une très grande force, parce que tout ça peut être lu aussi de manière ironique. En même temps, on voit comment elle tient tête aux journalistes. Elle a pas honte de les remettre à leur place quand ils lui posent des questions bêtes et tout ça. Donc bon, c'est peut-être un peu plus complexe que ça. Mais c'est vrai que on peut voir, comme disait Sofian, dans ses chansons qui sont le reflet un peu de ce journal intime, le fait que tout tourne autour de l'amour, et de cet amour qui est toujours vu comme quelque chose qui doit faire mal, l'amour passion, l'amour
qui doit se clarifier.
Exactement.
Elsa Gambin, est-ce que justement dans cette image d'Épinal de ce que doit être un homme, est-ce que Amy Winehouse disait pas non plus aux hommes qu'elle a pu fréquenter à l'époque, vous non plus vous n'êtes pas à la hauteur des hommes que vous pensez être?
Ah mais je pense qu'elle leur disait clairement ça, et en plus c'était le cas, en tout cas pour la majeure partie, donc elle avait raison.
Mais il n'empêche que, et c'est sa styliste Naomi Parry qui disait ça aussi, c'était un peu une vieille âme. Et elle avait ce truc encore des années 50-60 où c'était un peu cool de mourir pour son homme, de souffrir pour son homme. Elle avait quand même ça. Et elle chantait à une époque où, au contraire, des chanteuses affirmées, voilà, dévoilaient une forme d'émancipation, de force féministe, etc. Et elle était complètement à contre-courant de tout ça. Et ça peut venir interroger donc le terme de duplicité utilisé par Julia. Ouais, convient bien, je trouve, à cette ambivalence.
Mais en fait, elle condamnait le féminisme marketing tel qu'il existait à l'époque avec les Spice Girls, le Girls Power. Pour elle, c'était pas forcément ça, être l'empowerment féminin.
Ah bah, de toute façon, pour elle, tout ça, c'était un peu de la bouse, hein, pour être poli. Elle condamnait de toute façon globalement toutes sortes de marketing, y compris le chien sur Franck qu'elle a allègrement démonté. Mais oui, non, c'était pas du tout ça pour elle. L'empouvoirment féminin, pas du tout. Mais je suis assez d'accord sur le fait que, paradoxalement, elle donne la sensation d'avoir cette grande force en elle, mais finalement... Elle avait quand même ce tatouage Daddy's Girl sur l'épaule, qui se trimballe à 20 ans avec un tatouage Daddy's Girl. Enfin, pas grand monde, je pense, à part des fans d'Amy Winehouse.
Moi, mais j'ai été obligé de l'effacer.
Ben oui, mais je comprends. Non, mais c'est quand même pas rien. On va pas verser dans la psychanalyse, mais c'est quand même pas rien. Et ce qui s'est passé ensuite avec Blake, mais on en reparlera.
Oh oui, on va en reparler de lui.
Ouais, on va en reparler.
Je chantais dans un petit groupe, le National Youth Jazz Orchestra. J'avais 16 ans et j'adorais le jazz. Dinah Washington, Sarah Vaughan,
Tony Bennett.
Et Tony Bennett. J'ai appris à chanter en écoutant Monk, surtout des solistes plus que des chanteurs. Je me nourrissais de tout. My huckleberry friend, moon, river, and rain.
So, singing has always been important to me.
Chanter a toujours été important, mais je ne me voyais pas devenir chanteuse.
I just thought I'm lucky that it's something I can
pouvoir
always
faire
do
ce que je veux, comme je veux.
So like that.
C'est une chance.
But I didn't think it would be
mais je ne l'envisageais pas comme une carrière.
C'était un extrait du documentaire Amy, réalisé par Asif Kapadia et sorti en 2015, qui a notamment reçu l'Oscar du meilleur documentaire en 2016. Sofian Fanen, comment est né ce premier album, Franck ?
Il naît de façon assez naturelle et quand même dans un cadre extrêmement privilégié. C'est ça qu'il faut réaliser, c'est que Amy Winehouse, donc, elle va dans cette école où elle fait donc des écoles d'art, de musique, etc. Où vraiment elle fait les 400 coups, elle fait un peu n'importe quoi. Tout le monde a bien conscience que c'est une chanteuse très douée, mais elle est en dehors des clous. Vraiment, elle est pas là pour être à l'heure en cours, etc. Minimum. Mais dans cette école, elle rencontre un jeune garçon qui lui-même lui fait rencontrer un jeune homme qui s'appelle Nick Shimansky, qui est un manager au sein, d'ailleurs, de façon assez amusante, de 19 Entertainment, qui est l'entreprise de Simon Fuller qui a fait les Spice Girls. Donc Amy Winehouse se retrouve signée dans la même entreprise qui a fait les Spice Girls, qui est quand même l'anti-modèle de ce qu'elle est, de ce qu'elle veut être. Mais en tout cas, à partir de là, donc elle est quand même signée par une des plus grosses boîtes de management britanniques. Elle va signer chez EMI pour défendre ses chansons et chez Universal pour les enregistrer. Donc elle fait le grand chelem. C'est une des personnalités les plus attendues du petit monde de la musique. Personne la connaît encore, elle a rien sorti, mais elle est déjà sur une sorte d'autoroute du succès public potentiel. Après, il faut écrire des bonnes chansons. Et donc, elle fait Frank, qui est un premier album très à elle, très encore très marqué par le jazz, très... d'ailleurs, qui va lui échapper un petit peu. Elle va beaucoup critiquer le son final de ce disque, le mixage.
Les arrangements.
Parce qu'elle a pas eu le final cut, comme on dit, et que sur un premier album, on n'a pas le final cut, même si on est Amy Winehouse. Et donc, il y a des choses qui lui vont pas. Mais elle enregistre cet album, notamment avec un producteur, il faut que je retrouve son nom, à Miami, qui a notamment enregistré le Oulalala des Fugees.
On y revient.
Voilà. Et donc elle est comme une folle. Et donc elle part à Miami enregistrer ce disque de façon extrêmement sereine. C'est un enregistrement très serein. On est en famille. Il fait venir des vieux jazzman du coin, vraiment des papis qui viennent jouer du trombone. Elle est comme à la maison. Et donc ils enregistrent cet album de façon vraiment très très tranquille. Et elle commence à raconter aussi un peu ce qu'elle est. On en parlait. Elle commence à dire ce qu'elle cherche dans l'amour. Elle envoie une pique à son père aussi avec ce morceau qui s'appelle What Is It About Men, qui est c'est quoi le problème avec les mecs en gros. Et donc où elle attaque frontalement son père. Elle parle aussi, il y a une chanson que j'adore qui s'appelle Fuck Me Pumps, où elle raconte, donc Fuck Me Pumps, c'est littéralement les chaussures pour terminer dans le lit, quoi. Et donc elle raconte un peu sa vie à elle, c'est-à-dire j'arrive dans le bar, mais c'est pas seulement sa vie à elle, c'est aussi la vie d'une génération de jeunes femmes, ce qu'on appelle les ladettes, c'est-à-dire de jeunes femmes anglaises, vous savez, qui sont en talons et en jupe très très courte, sans collant, alors qu'il fait 4 degrés et qu'il pleut à Londres au mois de novembre. Cette vie extrêmement libre, on sort entre copines et on vit notre vie de façon extrêmement libre. Donc c'est un disque super londonien, jazz, oui. Mais en même temps qu'il la projette vers autre chose, il y a déjà pas mal de hip-hop dedans, etc. C'est un disque...
Et généralement, après, on vomit dans la rue derrière. Je connais.
Les soirées très, très libres en Grande-Bretagne. C'est un disque qui est... où on entrevoit le talent d'écriture au niveau des textes. Je trouve qu'après au niveau des musiques, moi je me rappelle l'avoir écouté à l'époque et c'était un peu vieillot. Dans le son. Alors c'est marrant de dire ça parce que le deuxième album est finalement encore plus vieillot dans le son qu'il recherche, mais elle avait réussi à en faire quelque chose.
Il y a quelque chose d'un peu.
Elle avait réussi à en faire quelque chose de plus, si ce n'est moderne, mais de plus intemporel. Alors que Frank, il est moins intemporel que Back to Black. C'est un disque de néo-jazz du début des années 2000, un peu clinquant, et on se dit il va moins bien vieillir. Et d'ailleurs il a moins bien vieilli, mais il y a des chansons extrêmement drôles. C'est surtout ça. C'est un disque très très drôle.
Julia Manas, vous avez découvert Frank a posteriori, après Back to Black. Et qu'est-ce que vous avez ressenti en écoutant cet album ?
C'est un album que je trouve, comme disait Sofiane, un peu plus difficile en première écoute, plus complexe peut-être. Il y a plein de sonorités, on y entend du jazz. Il y a quelque chose aussi beaucoup de la fin des années 90-2000 dans certains effets, du R&B. J'ai un amour particulier pour Stronger Than Me, parce que d'un point de vue musical d'abord, parce qu'il y a cette intro, elle commence
on va l'entendre
un peu avec ce scat et ensuite commence cette progression musicale, cette très cadencée, très très calme et toute la prouesse en fait est dans la voix d'Amy qui va dans des notes très très aiguës et c'est tout en restant jamais en voix de tête mais un peu dans un registre mixte et après ces paroles qui sont quand même assez drôles on en parle
drôle et cash
et très cash elle est impitoyable.
Elsa Gambin, quel titre vous a marqué sur Frank?
Mais j'étais en train de sourire en écoutant Julia parce que j'adore Stronger Than Me. Non mais j'adore cette chanson vraiment. Et comme moi je suis pas aussi mélomane que mes deux comparses, je sens bien que ce disque il est plus imparfait et moins travaillé que Back to Black, mais j'ai un attachement particulier parce qu'on sent la naissance, enfin voilà l'émulation. Il y a quelque chose qui va éclore en fait et qui va être une bombe, et on l'a vu après d'ailleurs. Mais voilà, j'aime beaucoup. Mais ce qu'on peut dire sur cet album, et que vient dire Julia aussi, c'est que c'est ultra cash. C'est même parfois salace ou obscène. Enfin, c'est ultra cru. D'ailleurs, après, ce qui va décontenancer certaines critiques, voire l'entourage d'Amy, il y a une chanson d'ailleurs où elle fait, où elle évoque d'ailleurs la masturbation de manière assez cash. Et là, je crois que Nick Chimansky et son père lui ont dit, mais tu veux dire quoi par cette phrase? Enfin, voilà, c'était, il y avait vraiment des paroles très crues et personne n'était habitué à ça. En fait, enfin, elle a quand même signé son premier album à 19 ans. Elle est toute jeune.
Oui, c'est-à-dire que
elle arrive et elle balance des trucs comme ça, quoi.
Eh ben, puisque tout le monde, il y a un consensus autour de Stronger Than Me, d'Amy Winehouse, un des singles de son premier album Frank, sorti en 2003, et on le rappelle, l'interprète que vous apprêtez à entendre n'a que 20 ans quand elle chante ce morceau.
You should be stronger than me. You've been here 7 years longer than me. Don't you know you're supposed to be the man? Now pale in comparison to who you think I am. You always wanna talk it through. I don't care. I always have to comfort.
Stronger than me. Tu es censé être plus fort que moi, d'Amy Winehouse, tiré de son premier album. Sofian, comment a été reçu par le public et par les critiques ce premier album de ce génie précoce ?
Bien, il s'est classé dans le top jazz, même dans le top des ventes britanniques, mais il n'est pas beaucoup sorti de la Grande-Bretagne. Faut imaginer qu'on est en 2003, hein. On est avant les réseaux sociaux, Facebook n'est pas né, il n'y a pas Twitter,
Les gens sont heureux.
Ça va beaucoup mieux. Et on est en plein milieu du marasme de la crise du disque des années 2000, de cette mutation numérique, le téléchargement, le MP3, machin. Il y a Pascal Nègre à la télé tous les soirs pour dire que c'est les artistes qu'on assassine, etc. Et donc ce disque a une belle vie dans une époque où c'est très difficile d'émerger. Alors, comme je l'expliquais, Amy Winehouse est très soutenu par une mécanique de marketing, etc. Mais elle fait tout pour ne pas suivre ce marketing d'ailleurs. C'est génial parce que il y a pas eu énormément d'interviews d'Amy Winehouse pour Back to Black. On va en parler. Pour les raisons sont assez évidentes. Elle n'était pas assez en forme pour ça. Mais pour Frank, elle donne des interviews à la radio, à la télévision, etc. Et c'est une sorte de furie. Elle fait des blagues, elle raconte des trucs. On lui pose des questions souvent relativement débiles et elle donne des réponses complètement folles. Elle est extrêmement drôle et donc c'est aussi ce personnage là qui fait qu'elle va commencer à rentrer dans le paysage de la musique, mais j'ai envie de dire qu'elle sort relativement peu du paysage des gens qui écoutent du jazz ou de la soul un peu modernisée. Il y a un petit courant à ce moment-là, Jimmy Colom, Cathy Melua, on essaye un peu de la faire rentrer dans cette boîte-là, voilà. Mais en tout cas, par exemple, en France, le disque est juste distribué. Donc c'est Universal France met le disque en bac, mais il y a pas de promo, rien, parce que c'est pas un son qui parle en France. Il est resté relativement méconnu en France. Les gens l'ont découvert pour la plupart après Back to Black.
Et sa découverte des États-Unis, est-ce que c'est déjà quelque chose de prévu?
Alors oui, il y a un attachement. Donc quand elle va en fait à Miami chez ce producteur qui s'appelle Salam Remy, le nom m'est revenu. Ce qui est très touchant, c'est qu'elle va à Miami. C'est un peu un hasard. Hein, c'est la maison de disque qui lui a dit, bah tu devrais peut-être bosser avec Salam Remy. En plus, il a fait les Fugees. C'est pour toi, cocotte. Et en fait, Miami. Il y a une histoire familiale, parce que sa mère, Janice, a de la famille là-bas, et quand elle était adolescente, elle est partie à Miami, et elle a failli y rester, pour vivre. Elle aimait bien la ville.
Il faut préciser que il y a une énorme diaspora juive installée à Miami depuis très longtemps, et c'est ce qui explique qu'il y a des liens qui se font assez naturellement entre Miami et les pays européens.
Exactement. Et d'ailleurs, même l'aïeul de la famille Winehouse, à l'époque, avant que ça devienne Winehouse, visait les États-Unis. Mais il est resté coincé à Londres pour tout un tas de raisons. Et c'est pour ça que la famille d'Amy Winehouse habite à Londres et pas de l'autre côté des États-Unis. Mais il y a un gros bout de la famille venant de Biélorussie qui s'est installé aux États-Unis et notamment en Floride. Et donc, elle découvre la Floride qui est quelque chose dont sa mère lui parle souvent. Elle dit, moi, c'est un peu mon idéal, c'est un peu là où j'aurais voulu vivre. Elle est rentrée parce que elle était jeune, il n'y avait pas de travail, sa famille lui a dit, non, rentre à Londres. Puis après, elle a rencontré Mitch, elle a eu des enfants, voilà, c'est la vie. Mais du coup, il y a quelque chose, en fait, elle se sent un peu vraiment comme à la maison, à Miami, alors que c'est pas du tout Londres, hein, on est dans une ambiance complètement différente, mais la Floride, ouverte sur les Caraïbes, c'est la musique qu'elle écoute beaucoup. On a parlé de Lauryn Hill, mais il y a aussi tout le courant ska des années 80, britannique, les Specials, etc. Tout le ska, le reggae, ça lui parle beaucoup, et en fait, elle arrive dans cette ambiance-là, c'est quelque chose qui est très naturel pour elle, et elle gardera vraiment, d'ailleurs, elle va retourner à Miami pour enregistrer plusieurs morceaux de Back to Black aussi, et Salam Remy restera tout au long de cette carrière une sorte de figure paternelle dans le monde de la musique. C'est lui qu'elle va appeler souvent quand ça va pas, elle l'appelle, elle lui raconte des bêtises, et d'ailleurs quand elle est décédée, elle travaillait sur un nouvel album, et il y a des notes vocales qu'elle a laissées à Salam Remy qui sont extrêmement touchantes. Elle dit, je suis en train de décrire plein de chansons, Salam, ça va être mortel, j'arrive dans quelques mois, bouge pas, enfin, c'est extrêmement touchant, c'est une figure très importante pour elle.
Et puis vient la rencontre avec celui qui deviendra son anneau de Sauron à elle, Blake Fielder Civil. Elsa Gambin, est-ce que vous pouvez nous parler de cette rencontre avec cet homme qui est quand même l'incarnation même du Red Flag? Voilà, en fait c'est un drapeau rouge sur pattes, cet homme.
Oui, à lui tout seul.
Oui.
Tout à fait, ouais. Bah, ça se passe au début 2005. Amy, elle revient de son année de promotion là, après l'album Franck. Donc, on a bien compris, on l'a dit un peu déjà, ça la faisait chier, la promotion. Elle tape sur la gueule de sa maison de disque en disant que c'était de la merde, la promo, tout ça. Bon, bref, en tout cas, elle est fatiguée. Elle se pose à Camden. Son label attend un second album. Elle n'arrive pas à écrire. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe son temps dans les pubs de Camden, à jouer au billard et à picoler. En gros. Plusieurs heures par jour, comme ça, elle rentre chez elle saoule, etc. Camden, à l'époque, c'est hyper tendance, hein, vous savez, Rancardé et tout ça, il y a Pete Doherty.
Mais ça veut dire qu'elle a déjà.
Des friperies.
Ça veut dire qu'elle a quand même déjà une notoriété qu'elle a acquise, même si c'est par un public un petit peu élitiste, mais avec Frank. Donc quand elle se murge, elle est déjà un petit peu sous le feu des projecteurs ou pas encore totalement?
Alors là, pas encore trop. Et ce qui est étonnant, on parle de quelque chose qui n'est pas trop vieux, on parle du début des années 2000. Et à cette époque-là, des célébrités comme Pete Doherty ou Amy Winehouse se promènent librement, j'ai envie de dire, dans leur quartier de Camden. Tranquillement, comme ça. Pas de garde du corps, pas de... Voilà. Donc on peut les croiser quand on va au pub. Et c'est ce qui se passe avec Amy Winehouse. Mais elle n'a pas encore... Non, elle n'a pas encore les paparazzi aux fesses.
D'accord. D'accord. Et donc, ce Blake.
Et ce Blake rentre un jour dans le pub où elle est en train de jouer au billard. Et c'est ce qu'on appelle un coup de foudre. On y croit ou pas. Mais en tout cas, c'est ce qui se passe. Il joue au billard pendant des heures, il picole, ils passent la nuit ensemble... et va commencer une relation pour le moins orageuse pendant 6 mois. Et d'emblée, elle comprend que ce mec-là consomme un certain nombre de drogues dures. On ne va pas toutes les citer, mais la liste est longue. Et pour faire un peu comme lui, parce qu'elle est entière en amour, elle est passionnée, même si le mot a une autre connotation aujourd'hui, on entend plutôt toxicité, elle va faire comme lui et il va allègrement l'entraîner là-dedans, en fait.
Oui, parce que lui, il se présente comme un assistant réalisateur sur des clips. Et alors qu'en fait, le gros de ses revenus, c'est le deal de drogue.
Ah oui, c'est le deal de drogue. Il distribue vaguement des flyers dans les bars. En fait, il ne fait rien. Blake, et il trouve dans la personne d'Amy quelqu'un aussi pour clairement financer ses consommations. Donc dans les années qui vont venir après, d'ailleurs il sera quasiment de toutes les tournées, et il se charge lui-même de trouver un dealer et de la cam dans toutes les villes où Amy Winehouse ira, quoi.
Julia, quand vous avez vu Amy Winehouse sur scène, est-ce que vous étiez déjà consciente de ce triste cire qui rôdait autour d'elle?
Non, pas encore, pas tout à fait. Pas tout à fait. Je me souviens qu'à l'époque, commençait déjà. Alors, je ne sais pas si c'est les mêmes années, mais il y avait quand même ces tabloïdes qui étaient absolument impitoyables avec les célébrités. Pour Amy, ça commence après la rencontre.
Non, pour l'instant, il n'y avait pas la possibilité de savoir qu'il était là. C'était pas encore trop visible.
C'était pas encore visible. Alors, quand je la vois en concert, on est en octobre 2007. Donc, je pense qu'à l'époque, ils viennent de se marier. Oui. Ils se sont mariés en mai. Donc, elle lui lançait des baisers.
D'accord.
Voilà.
Sofian, ce Blake, lui, savait à qui il avait affaire quand il a rencontré Amy Winehouse?
Non, parce que à l'époque... c'est pas grand-chose, Amy Winehouse, quand ils se rencontrent en 2004. Elle a sorti ce disque, il y avait des pubs sur les bus pendant 2 semaines, puis voilà, c'est tout. C'est pas une méga star. C'est une personnalité du quartier, effectivement, on la croise facilement, etc. Mais il drague une fille du quartier qui joue au billard et que d'ailleurs ils se sont croisés plusieurs fois avant sans se reconnaître, on va dire. Et donc il la quitte. elle écrit Back to Black en racontant cette histoire d'amour qui l'a dévastée, etc. Et c'est après que lui, du coup, le disque devenant une sorte de succès extrêmement rapide.
Oui, Back to Black, lui, c'est du coup, très vite. Et puis lui, il devient un personnage qui dépasse largement le réel.
Voilà, donc il devient un personnage un peu légendaire pour qui on a écrit l'un des plus beaux albums et des chansons d'amour les plus dévastées.
Alors que le gars ressemble à rien.
Alors que le gars est affreux, etc. Et c'est là qu'il revient. En fait, c'est là qu'il revient pour profiter pleinement de la machine à cash qu'est devenue Amy Winehouse. Mais au début de leur relation, alors clairement, elle a une vie plus stable et elle a plus de revenus que lui. Elle a acheté un appartement à Camden avec les revenus de son premier album. Elle a commencé à mettre un premier pied dans une carrière musicale qui lui rapporte un petit peu d'argent. Mais c'est pas du tout quelqu'un qui est encore connu. Les tabloïds lui courent pas encore après. Il va falloir attendre Back to Black qui en 6 mois traverse toutes les radios, toutes les générations, toutes les musiques, tous les pays du monde, et c'est là où il revient.
Ce qui me frappe, c'est que depuis le début, on voit quand même qu'autour de Amy Winehouse, elle a des amis, elle a une famille qui, même si ses parents sont séparés, sont toujours très 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 proches d'elle. Son père, sa mère, sa grand-mère. Comment ce cercle familial accueille l'arrivée de ce Blake pour lequel tout d'un coup leur fille, si charismatique et si indépendante, écrit un album qui est un témoignage d'amour dévasté parce que eux ils l'ont rencontré, ce Blake.
Oui, ils le rencontrent, ils le voient. Alors pas tant que ça, parce que elle a sa vie à elle. Elle a pas 15 ans. Elle vit sa vie. Elle est très indépendante, on l'a dit. Et elle est très proche de ses parents, donc elle les voit tout le temps, etc. Mais elle est quand même très indépendante. Et puis elle masque sa dépendance aussi. Son alcoolisme, qui existait avant la rencontre de Blake, elle le masque tant bien que mal. Et son entrée dans les drogues dures, alors que sur le premier album, c'était juste des joints, elle a toujours fumé pas mal d'herbes. Mais les drogues dures, d'ailleurs, elle disait, c'est vraiment un truc de loser, moi jamais, c'est vraiment des pauvres gars et tout. Mais elle suit Blake dans ce chemin. Et en fait, ils vont se rencontrer petit à petit. Et c'est le duo un peu formé par Nick Szymanski, donc qui est le premier manager d'Amy Winehouse, qui est là à cette époque, et son père Mitch vont beaucoup beaucoup discuter, parce que petit à petit il y a des alertes et il y a notamment cette fameuse réunion qui est racontée par le menu dans la chanson Rehab, qui est le premier single de Back to Black, où Amy Winehouse est en réunion chez Universal avec Nick Szymanski et Mitch, et où tout le monde lui dit, mais faut que tu rentres en cure de désintox parce que t'es très fragile. En fait, on le voit. Et elle dit, non, mais c'est une histoire d'amour, c'est passé, ça ira mieux, papa, je vais me remettre. Et donc, en fait, sa famille est là. Sa famille est là, son manager est là, sa maison de disques est là aussi, mais alors, il minimise, est-ce qu'il minimise ? Peut-être en partie, peut-être qu'ils veulent pas se dire que c'est aussi grave que ça, évidemment, mais il y a aussi le côté, comment dire, elle est difficile à attraper. On peut pas la forcer.
On peut pas sauver les gens.
Et vous savez qu'on peut pas. Voilà. Oui. En fait, on peut pas envoyer quelqu'un en réhab si la personne ne veut pas, ça ne marche pas. Et donc, en fait, au début, ça ne marche pas. Notamment parce que Blake est là et que assez souvent, quand elle part en cure de désintox, lui il vient aussi et lui il a pas du tout envie d'arrêter la drogue.
Oui, d'ailleurs, il y a des anecdotes où même en cure, on lui fait parvenir...
On lui fait passer un nounours.
Un nounours plein de drogue.
Quand on veut trouver de la drogue, on en trouve, en fait. Et donc, il faudra plus tard que Blake soit emprisonné en novembre 2007, dans mon souvenir, pour qu'elle puisse vraiment commencer...
Oui, parce qu'il faut le dire qu'il a mis dans le coma...
Un patron de bar.
Un patron de bar, voilà. Et qu'ensuite, il a essayé d'acheter son silence pour...
Voilà. C'est un garçon extrêmement extrêmement sympathique,
vraiment,
hein,
vraiment. Regardez le film finalement, regardez-le pour voir mesurer à quel point
et en fait à un moment il est enfermé Et c'est à ce moment-là où Amy Winehouse commence à aller un petit peu mieux et elle arrive à se soigner parce qu'elle a pu ce démon qui la ramène et dont elle pense être amoureuse. Enfin, elle le dit en tout cas. Donc c'est oui quelqu'un d'extrêmement néfaste.
Elsa, j'aimerais qu'on parle de Back to Black, évidemment avec le jeu de mots Back to Blake, et qui est assez évident, mais qui est un album, musicalement parlant, en faisant abstraction de tout ce qui est cette longue et lente descente aux enfers, et absolument magique de production et d'écriture.
Oui, mais oui, tout à fait. Et il faut savoir, mais on l'a déjà dit, que effectivement, alors le talent d'Amy est indéniable, mais elle a été très très entourée. Hein, je crois qu'on l'a déjà dit tout à l'heure. Elle a été entourée de gens extrêmement compétents, de producteurs, de musiciens, etc. Extrêmement compétents pour ces deux albums. Et là, du coup, elle décide de travailler avec, je suis nulle en anglais, vous me pardonnez, Ray Cosbert, qui était alors son tourneur. Et elle va également retravailler avec Salam Remy et surtout faire la rencontre du producteur Mark Ronson.
Mark Ronson.
Ouais, Mark Ronson. Elle s'attend d'ailleurs, il y a une anecdote aussi comme ça, elle s'attend à rencontrer un vieux juif en rentrant dans le studio et en fait on est sur un beau mec, jeune, enfin voilà.
Ah, lui il est beau, j'ai vu les photos, lui il est beau.
Lui il est beau tout à fait, ouais. Et donc elle s'adresse, je sais plus, à l'ingénieur du son ou quoi quand elle rentre dans le studio, enfin bon bref. Et ils deviennent très très complices. Donc ça fonctionne bien aussi parce que quand Amy a une forte complicité, voire une très forte amitié aussi avec les gens avec lesquels elle travaille, et lui du coup, voilà, effectivement, ils deviennent très amis et ça va très bien marcher pour ça. Mais quand elle commence à écrire, parce qu'avant elle n'arrive pas à écrire, quand elle commence à écrire, Blake est parti. Donc là, on peut pas refaire toutes les dates, c'est ce qu'a dit Sofian. Il part, il revient, il part, il revient. Enfin, c'est un enfer, même pour dater, c'est un enfer. Mais en tout cas, elle est au fond du trou et donc la chose qu'elle va faire, finalement, c'est écrire. Et elle écrit les deux chansons les plus connues, effectivement, Rehab et Back to Black, en 2 à 3 heures. Tout est écrit.
Rehab, etc. qui est aussi le résultat d'une conversation avec Mark Ronson, si j'ai bien compris.
Oui, ouais, tout à fait. Ils marchent ensemble dans la rue et elle lui dit, mais ils ont essayé de m'envoyer en cure et j'ai dit non, quoi. Et lui, il dit, mais waouh, mais ça ferait une super chanson, ça ferait un super refrain. Viens, on va en studio, quoi. Et ça fait une des chansons les plus connues au monde. Du coup, donc ça a été oui pensé, écrit, composé en 3 heures quoi.
Et c'est un album qui est assez paradoxal parce que il a à la fois l'air d'être un petit peu vintage, un peu ancien et moderne à la fois. Comment ils ont réussi à avoir cet équilibre musical sur cet album?
Ils ont travaillé avec tout un tas de personnes qu'on ne peut pas citer là tellement il y en avait, mais entre autres avec un groupe qui s'appelle Dap Kings, qui ont été engagés par Mark Ronson d'ailleurs. Et eux, ils travaillent beaucoup tout ce qui va être la soul, le Motown et tout. C'est vraiment un groupe excellent. Ils étaient 9, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et des musiciens vraiment excellents qui travaillent qu'avec du matériel vintage. Et ça donne ce son très particulier aux chansons qui ont été travaillées avec eux. Et ce qu'on voit aussi sur ce second album, dès la couverture, c'est le changement physique d'Amy, qui, voilà, on n'a plus du tout les bonnes joues qu'elle avait avant, on a tout à coup la ruche, la beehive, elle est couverte de tatouages, et surtout, elle est extrêmement maigre. On voit bien que là, il y a quand même un vrai souci de santé qui apparaît. Donc, il y a vraiment une bascule dans cet album-là, au niveau du look aussi.
Julia Manas, dans Back to Black, quelle est la chanson qui vous a le plus marqué?
Je dirais Rehab. Je dirais Rehab parce que déjà parce que c'est via cette chanson que je découvre Amy Winehouse en vidéo. C'est aussi une chanson manifeste, c'est-à-dire que oui, bien sûr, il y a toute l'histoire de sa relation à l'addiction, à la santé. Elle parle de son père et dit bon, s'il pense que je vais bien, ok, j'ai pas besoin d'aller en cours de désintox. Mais elle cite aussi Ray Charles. Elle dit I'd better be at home with Ray. Je préfère rester à la maison en écoutant de Ray Charles. Elle parle de Mr. Hathaway. Donc, je pense que c'est une chanson très importante.
Et après, je pourrais dire un deuxième, Tears Dry on Their Own, parce qu'il y a, ça rappelle délicieusement Ain't No Mountain High de Marvin Gaye et tout cet imaginaire Motown qui va.
Les fans de Sister Act sauront de quoi on parle.
Exactement. Et après, on ne peut pas, oui, détacher Back to Black de ce changement de style dont elle a parlé. C'est-à-dire que là, il y a tout un imaginaire qui est mis en place, qui rappelle tous ces films de motards, de bad girls. Je pense à Grease, je pense à John Waters. Les tatouages qui apparaissent, un mélange, oui, de style mode avec les polos et en même temps, encore une fois, très ancré dans son époque, donc les jeans skinny. Et elle avait aussi ses ballerines, ça c'était assez drôle parce que ces ballerines très très flattes, en fait, celles qu'on utilise pour les cours de danse, un satin rose. Et elle en avait des centaines parce qu'évidemment, c'est pas les meilleurs souliers pour déambuler dans Londres. Et en même temps aussi toutes ces tenues de scène qu'on lui connaît, ces cocktail dress avec imprimé léopard. Donc il y a vraiment toute une image qui s'est créée avec à côté évidemment du son et de la musique.
Oui, elle a presque les mêmes tenues que Janice dans Friends.
Oui,
il y a de ça.
Oui, elle est complètement too much. Elle est complètement too much. Et ce qui est le plus surprenant, et je me rappelle quand même de l'époque, c'est à quel point elle est complètement hors mode. Elle est en dehors de tout. Elle surgit comme ça. Elle est même en dehors de son premier album parce que il y a pas d'image du premier album. Il y a de la musique, mais voilà, c'est une chanteuse un peu comme une autre encore, même si elle a encore déjà un caractère et tout. Mais elle arrive sur Back to Black avec un son qui est complètement en dehors de son époque. D'ailleurs, il aurait été en dehors des années 90, en dehors des années 80. Enfin, c'est un son extrêmement, en même temps, à elle et qui n'a aucun sens. Et d'ailleurs, personne ne cherchait ce son. Elle a fait une mode à elle toute seule dans les années 2000. Et on est quand même à l'époque des Spice Girls, de Britney Spears, de Rihanna, du retour du rock, les Arcade Fire et compagnie. Et on a cette londonienne super tatouée qui chante des chansons d'amour dévastées avec une coupe de cheveux des années 60. Ça n'a aucun sens. Et en même temps, tout le monde est happé. On parlait tout à l'heure de ces concerts. Moi, j'ai eu la chance de la voir aux Eurocaennes 2007. Et je m'en rappelle, elle joue donc en fin de journée sur une scène qui est pas du tout la plus grande du festival. Les gens la connaissent pas beaucoup parce qu'en fait l'album est sorti tard en France. Parce que Universal, encore une fois, n'y croyait pas beaucoup parce que...
D'ailleurs, je crois que la radio, le Move, a joué un rôle assez important dans la diffusion d'Amy Winehouse en France.
Oui, parce qu'en fait, au début...
Radio Nova, excusez-moi, j'ai fait du chauvinisme. voilà, on n'était pas Radio France, c'était Radio Nova.
Qu'en fait, Universal France comprend bien que l'album est génial, mais c'est aussi qu'elle est, je mets des guillemets parce que c'est une citation ingérable, et donc il y aura pas de promotion possible, et sans promotion, on va pas amener des artistes à la radio, blablabla. Alors qu'évidemment que les chansons sont d'une puissance suffisante, en fait, pour emmener ce disque très très loin. Mais du coup, le disque sort uniquement en mars 2007. Et donc, quand elle joue aux Eurocaennes tout début juillet, ça commence à passer à la radio, à peine personne la connaît. Et je me rappelle que au début, il y a peut-être 200 personnes qui sont là pour le début du concert. Et au fur et à mesure, ça arrive. Tous les gens qui passent devant s'arrêtent et ne repartent pas et voient ce personnage qui découvre vraiment là. Et en fait, Amy Winehouse, ce qui était génial, c'est que c'était un logo. C'était un logo qui chante. En fait, on la voyait de loin et on avait cette image hyper puissante en tête qui était extrêmement cohérente avec la musique. En plus, elle avait son groupe des sortes de gars super sapés, les costards, les années 60, qui dansaient ensemble avec les cuivres, les trompettes, les trombones, qui faisaient les mouvements ensemble. C'était incroyable.
Oui, un peu comme les Supremes, ouais, mais sauf que là, c'était des voilà. Mecs.
Et donc, c'est un personnage hors sol qui capte toute la lumière d'un coup.
Et ce qu'on n'a pas dit, c'est évidemment en marge de la rupture d'avec Blake, enfin rupture, puis rabibochage, etc. Mais elle a aussi perdu sa grand-mère.
Oui, elle perd sa grand-mère d'un cancer du poumon. Elle fumait beaucoup, Amy Winehouse aussi d'ailleurs. Donc sa grand-mère meurt pendant la finalisation de Back to Black. En fait, elle va faire un aller-retour à Londres pour l'enterrement. C'est quelque chose de pas secondaire. Sa grand-mère était absolument centrale dans sa vie. Et j'allais dire que la santé de sa grand-mère et la santé de sa mère sont aussi un quelque chose qu'il faut avoir en tête quand on essaye de comprendre pourquoi elle était aussi fragile dans les années où elle tombe sur Blake et où elle tombe dans les drogues dures, etc. Elle était aussi extrêmement fragilisée dans sa vie familiale, parce que on l'a dit, avec son père, il y a une relation complexe, c'est un peu je t'aime moi non plus, etc. Mais avec sa mère et avec sa grand-mère, c'est vraiment des points fixes dans sa vie. Il y a pas de problème, c'est des phares. Et ces deux phares clignotent vraiment. Ils sont fragilisés pendant vraiment toute la relation avec Blake et l'enregistrement de Back to Black. Et c'est vraiment un fond extrêmement extrêmement important. Et elle va être oui follement marquée par la disparition de sa grand-mère qui était son modèle, et Amy Winehouse était en bonne partie une sorte de réincarnation. Deux générations après de sa grand-mère.
Et ce qui me frappe, c'est que il y avait déjà, on le savait quand elle a écrit Back to Blake, que elle était déjà, elle avait des prémices de toxicomanie. On avait déjà émis l'hypothèse de l'envoyer en cure de désintoxication. Mais le souci, c'est que quand le génie a pour source, c'est-à-dire que les chansons qu'elle a écrites, c'est des chansons de tristesse amoureuse. Quand le génie a pour source une telle relation toxique, est-ce qu'il n'y a pas toute une industrie musicale qui souscrit aussi au cliché de l'artiste maudit, c'est-à-dire en même temps, faut peut-être qu'elle galère pour pouvoir nous sortir des albums comme Back to Black.
Ah oui, comment dire, la tristesse et les galères, c'est beaucoup plus intéressant, facile à vendre que la vie de Francis Cabrel dans sa maison dans le sud, qui élève ses moutons, je ne sais quoi. Il y a rien à dire. Alors que Amy Winehouse, c'est une sorte de légende sur pattes, et c'est le comment dire, sexe, drogue, rock and roll. C'est vraiment une sorte de comment dire, de mantra qui est aussi du marketing, qui est aussi c'est une facilité. C'est vraiment une facilité, et tous les médias vont se jeter dessus parce que très rapidement, donc je l'ai dit, Back to Black devient un phénomène discographique, musical, médiatique, et on découvre la chanteuse qui est derrière, et tous les médias, notamment britanniques, vont vraiment sauter sur elle comme sur un animal blessé, et la harceler en permanence, etc. Et le monde de la musique, lui, va, comment dire, un peu nourrir la bête en l'emmenant en tournée au moment où vraiment elle est plus en état de faire des concerts, mais personne n'arrête la machine parce que tout le monde pense que c'est l'autre qui doit arrêter la machine, et puis il y a des histoires d'assurance, c'est-à-dire que si l'artiste est là mais que le problème de son incapacité à monter sur scène, c'est quelque chose que l'artiste a pris elle-même, l'assurance ça marche pas, et donc il vaut mieux que l'artiste monte sur scène et fasse un concert catastrophique. Ce qui s'est passé au Zénith à Paris en octobre 2007, c'était mais dramatique, mais en fait il vaut mieux qu'elle monte sur scène plutôt que le concert soit annulé, parce que ça coûte moins cher. Donc c'est vraiment des choses extrêmement cyniques comme ça qui se mettent en place et qui se répètent pendant des mois, et avec cette incapacité à la protéger, mais aussi de sa part à elle, cette incapacité ou cette volonté aussi de ne pas non plus se cacher et de ne pas disparaître.
Alors là, on parle évidemment de ce moment où elle était amoindrie, mais Back to Black, c'est aussi un moment où elle savait être très très forte, et notamment avec une chanson, You Know I'm Not Good, qu'on écoute tout de suite. Julia Manas, je vous vois chanter les paroles par cœur. C'est ce morceau, c'est pas votre préféré de l'album, mais ce moment où elle a commencé à être offert à tous les yeux de ses fans un peu partout sur la planète, mais dans des conditions qui lui permettaient pas de chanter. Qu'est-ce que vous, ça vous a fait en tant que fan?
C'est ça m'a fait beaucoup de mal. C'était très, très attristant. En tout cas, je trouve que l'époque est compliquée parce que c'était une époque qui entretenait un peu ce côté, le côté un peu destroy. On l'a dit tout à l'heure, mais il n'y a pas encore à 100% les réseaux sociaux. Donc, en quelque sorte, il n'y a qu'une voix qu'on peut entendre. Mais les artistes n'ont pas, par exemple, la possibilité de s'exprimer via les canaux qu'il y a aujourd'hui, par exemple. Et aussi, oui, bah, si on y pense, aussi la mode aussi n'est pas très clean. Ça me fait penser à par exemple à Kate Moss qui à cette même époque a retrouvé sniffé du crack et peu après remonte au devant de la scène. Donc il y a une sorte de il y a un côté un peu oui, on se complaît dans ce côté un peu de destroy, je trouve.
Oui, c'est pas si grave que ça.
C'est pas si grave.
Ça va un peu avec le mode de vie.
C'est un peu cool. Oui. Et je trouve, oui, quelque chose que notre époque a apporté, c'est aussi beaucoup plus de conscience sur toutes ces questions de santé mentale et de. Oui, et de. Par rapport, par exemple, à la boulimie ou à la relation avec l'alimentation, qui sont très différentes aujourd'hui.
Elsa Gambin, est-ce que vous pensez qu'il y a eu un avant et un après Amy Winehouse dans la manière que l'industrie musicale a de gérer ses artistes et l'état de ses artistes?
J'aurais aimé répondre oui, mais on a vu avec Britney Spears, qui a quand même été internée par le biais de son père il n'y a pas si longtemps que ça, que c'est pas encore tout à fait le cas. Après, je pense que ces deux figures, en tout cas de l'industrie musicale, ont aidé à une prise de conscience, clairement. Et tant mieux, je pense qu'il y avait une forme de non-assistance à personne en danger. C'était absolument pas normal de voir une jeune femme tituber sur scène, quitter la scène pour aller vomir. Faut savoir aussi que quand elle annulait des concerts, c'est qu'elle était à moitié en coma éthylique chez elle. Enfin, pas qu'à moitié d'ailleurs. Et donc, quand elle sortait de chez elle, elle avait des bleus parce qu'elle se cognait.
Elle a même perdu une dent.
Elle a perdu une dent. Elle a dit qu'elle s'était arrachée toute seule. Enfin, bon, bref. Et avec le climax de cette photo où elle et Blake sortent d'un hôtel et ils sont tous les deux ensanglantés, lui, il est tuméfié. Elle a du sang qu'on voit à travers ses ballerines toutes fines, donc c'est parti complètement en sucette. On s'est dit, mais elle se pique entre les orteils, enfin, des trucs complètement déconnants. Ce qui n'était pas le cas d'ailleurs, je précise. Donc voilà, donc, j'ose espérer que oui, pour que ça n'arrive plus. En tout cas, il y a une défaillance et du système, et probablement, mais c'est difficile d'accuser des gens comme ça, de son entourage qui a vu trop tard, qui a vu trop peu, et qui a fait l'autruche peut-être un peu quand même.
Sophie Anfaten, il y a aussi un groupe de responsables dont on n'a pas parlé, qui est quand même aussi le public. Parce que ces paparazzi, s'ils courent après une Amy Winehouse, s'ils courent après une Britney Spears, s'ils sont prêts à poursuivre une Lady Di dans un tunnel ou ce genre de choses, c'est bien parce qu'il y a un public qui se complaît aussi à voir ces idoles tomber.
Oui, une sorte de goût du sang. Clairement, je pense que le public est éminemment responsable, enfin en tout cas autant que à peu près tout le monde dans cette affaire, même si je pense que son entourage professionnel et notamment à un moment, on parlait de Ray Cosbert tout à l'heure, et en même temps son manager et son tourneur, donc là il y a quand même une sorte de conflit d'intérêts problématique, mais oui, en fait le public, il y avait une sorte de boucle de chambre d'écho entre les médias, enfin les tabloïds, hein, parce que vraiment les médias musicaux ne parlaient pas de ça, et le public, et on venait voir, en fait on venait au cirque. Il y a des gens qui allaient voir Amy Winehouse en espérant presque que ça soit cataclysmique. Et je pense qu'on avait un rapport absolument pas sain, parce que je pense qu'on parlait pas encore assez du fait qu'en fait c'est pas normal. C'est pas normal que des artistes, que des gens qui ont une place publique parce qu'ils sont artistes du cinéma, de la télévision, etc., de la musique, soient en train de se détruire devant nos yeux à l'époque. c'était encore sexe, drogue, rock and roll. C'est pas grave, ça fera des bonnes chansons. C'est encore comme ça qu'on pensait. Et c'est vrai que depuis, il y a eu Amy Winehouse, il y a eu Britney Spears, il y a eu Avicii aussi, le DJ suédois qui s'est suicidé. On a aussi appris la vie de Whitney Houston, qui était assez secrète, et on a appris à quel point c'était dramatique. Et il y a eu tout un discours sur la santé mentale, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, on le voit récemment, il y a des artistes qui ont eu des problèmes avec l'alcool sur scène, et c'est pas du tout la même attitude. Il y a une attitude beaucoup plus une prise de conscience que c'est pas normal qu'un artiste ou une artiste soit ivre sur scène et qu'il faut l'accompagner, et que être fan de la musique, c'est aussi comprendre, s'intéresser et avoir une sorte de sentiment d'attachement avec cet artiste, et pas juste être là, ah c'est super drôle, elle est bourrée sur scène, qu'est-ce qu'on rigole. Et je pense qu'on a vraiment changé d'époque, mais parce qu'on a changé d'époque, je pense globalement sur les addictions et sur les problèmes de santé mentale, et même dans le monde de la musique, on a malgré tout changé d'époque parce qu'il y a d'autres personnes qui sont aux manettes et que l'époque est différente, et on a même le monde de la musique a même intégré ces problématiques-là dans les contrats. Il y a des assurances aujourd'hui pour pouvoir envoyer les gens en cure de désintox, ou alors juste faire une grosse pause pendant 6 mois. Donc petit à petit, j'ai envie de dire, ça va un tout petit peu mieux, même si c'est pas encore absolument réglé. Et je pense que notre goût du sang, il disparaîtra jamais. On est comme ça, on est un peu des animaux malgré tout.
Alors, on parle évidemment de la disparition d'Amy Winehouse, qui est morte d'un coma éthylique. Mais j'aimerais qu'on termine cette émission en l'écoutant au pic de son talent avec Back to Black.
Shame, oh shame, babe.
C'était Back to Black d'Amy Winehouse. Eh bien, on arrive à la fin de cette émission. Julia Manas, merci beaucoup.
Merci.
Sophie Orfanen, merci également. Merci. Elsa Gambin, merci, d'avoir été avec nous pour évoquer cette grande chanteuse et ce grand album qui est Back to Black. N'hésitez pas à écouter Amy Winehouse, écouter Franck aussi, parce qu'il y a de très 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 bons morceaux. J'aimerais qu'on remercie également Marion Lelay qui a réalisé cette émission. Elle a été préparée par Lisiane Larbani et à la technique aujourd'hui Enzo Hospital. Vous pouvez bien évidemment nous laisser un message au 01 56 40 30 20, je répète 01 56 40 30 20, ou parler directement avec moi sur Instagram, vous tapez hop, vous faites @FredSigrist, et puis vous pouvez me poser des questions sur les blockbusters à venir, d'hier et de demain. Voilà, je réponds, je serai ravi. À bientôt. Blockbuster est un podcast original de France Inter.